Jemila Benhabib, bonjour.
Bonjour.
Vous sortez un livre qui s'appelle « L'automne des femmes arabes ». Pourquoi ce titre ?
Ben, l'automne, parce que c'est une saison entre deux. C'est une saison qui peut aussi bien tourner vers l'hiver que vers l'été en réalité. Donc les femmes dans le monde arabe et dans le monde musulman sont entre deux.
C'est un titre qui fait référence bien sûr au printemps arabe. C'est aux femmes de choisir leur destin dans ces pays-là notamment.
Ben, en fait, c'est aux femmes encore d'arracher leur liberté parce que malheureusement, la triste réalité des gains électoraux des islamistes nous rappelle que, en réalité, c'est inconciliable. La liberté des femmes est inconciliable avec l'islam politique.
Vous décrivez que le voile a refait son apparition, notamment en Égypte et en Tunisie. Vous parlez aussi de celles qui sont noyées par leur niqab. On se dit finalement non, il n'y a pas de résistance possible.
Et pourtant, il faut aller vraiment au-delà de ce qu'on nous laisse voir pour comprendre un peu le monde arabe et le monde musulman, parce qu'il est rempli de contradictions. Vous savez, quand on vit au quotidien le harcèlement sexuel, eh bien, on pense à des façons de se protéger. Et malheureusement, aujourd'hui, l'une des protections, eh bien, c'est de se couvrir.
En France aussi, le voile a fait son apparition. D'où, à votre avis, vient ce phénomène en France ?
En France, la situation est totalement différente. On ne vit pas le harcèlement sexuel comme il est vécu en Égypte. En Égypte, c'est 85% des femmes, même plus, qui sont harcelées. Ce sont aussi 85% des femmes qui sont pratiquement excisées. Donc, voyez-vous, la réalité est totalement différente. Donc, autant, si vous voulez, je peux être quelque part indulgente par rapport aux femmes qui le portent dans les pays où il y a une violence à l'égard des femmes, mais autant je suis extrêmement sévère à l'égard de celles qui le portent dans les pays occidentaux, parce que aujourd'hui, finalement, c'est une façon de se distinguer de la société d'accueil, de la société occidentale, et finalement de se positionner autant qu'entité pure, contrairement à l'entité impure, c'est-à-dire l'entité occidentale. Eh bien, voyez-vous, il faut ne pas accepter ce genre de phénomène parce que le voile, c'est la soumission des femmes. Voilà, tout simplement. Elles se distinguent tout simplement par le fait de porter un vêtement. Alors, y a-t-il plus aliénant que ça pour les femmes, que d'exister à travers un habit ? Elles n'ont finalement d'existence qu'à travers ce voile.
Et comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Est-ce qu'on peut imaginer que ces femmes en France, par exemple, sont soumises à une certaine pression familiale ?
Oui, j'en sais quelque chose moi-même, puisque mes parents habitent en région parisienne, à Saint-Denis, dans la banlieue nord, et j'ai moi-même travaillé dans des quartiers à domination maghrébine, où en effet, il y avait une certaine crispation par rapport à la liberté des femmes et par rapport au corps des femmes. Donc oui, en effet, mais il y a aussi le phénomène de la progression d'organisations islamistes qui ont compris finalement que pour piéger l'Occident, eh bien, il fallait revendiquer tout simplement sa liberté de choix et sa liberté de vêtements. D'ailleurs, c'est ce que disent aujourd'hui les militantes islamistes, c'est ma liberté, c'est mon choix, lorsqu'elles portent ces tentes ambulantes. Que leur répondre ? Il y a une argumentation qui nous manque lorsque elles nous renvoient ce type de rhétorique-là. Je veux dire, aujourd'hui, les milliards que déverse le Qatar pour embrigader ces populations-là immigrantes, c'est un élément à considérer parce qu'il y a une internationale islamiste. Aujourd'hui, si le Qatar veut s'imposer sur le territoire français dans les banlieues, bien c'est pour avoir des leviers, y compris en France.
Jemila Benhabib, merci beaucoup.
Merci infiniment à vous.
Bonne journée.